9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors AVS, ça veut dire à votre santé, et le mardi, ça veut dire à votre santé sexuelle. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nadia Elbouga est avec nous. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Double casquette, vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Bon, la matinée va être compliquée ce matin, vous êtes venue avec des collègues. Alors, à gauche, le transistor, c'est Alix Moujard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes travailleuse sociale et vous êtes cofondatrice des éditions Déclic.
Tout à fait.
Merci d'être là. Alexia Perret est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes éducatrice à la sexualité, sexothérapeute et thérapeute de couple.
Oui, c'est ça.
Voilà, on en parlera tout à l'heure. Et vous êtes venue avec des boîtes de jeux, Nadia. Mmh. Alors, à la radio, ça ne se voit pas forcément. On va présenter, un jeu tout de suite.
Ouais, allons droit au but.
c'est pas un jeu de boules, hein.
C'est le...
Excellent. C'est un jeu qui s'appelle C'est du cul.
Voilà.
Mais c'est du...
Vous remarquerez que j'ai pas voulu le dire, donc j'ai refilé le bébé à Nadia.
Ouais, mais bon, c'est pas un jeu de boules, voilà.
C'est un jeu de mots. Alors, déjà, le nom est un jeu de mots, on peut le préciser. C'est le début du mot séduction. Mmh. La lettre Q pour tous les sous-entendus que ça peut avoir. Mais ça sous-entend aussi s'éduquer. Sudoku pour le petit côté ludique quand même. Donc, on y va franco, effectivement.
Bien. Et nous allons parler de ludopédagogie ce matin. La ludopédagogie, alors c'est quelque chose qu'on commence à retrouver un peu beaucoup sur des sujets de société sensibles, la ludopédagogie. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer, Nadia, la ludopédagogie?
Ah, moi, je vais laisser plutôt Alix nous l'expliquer.
Passage de relais. Alors, la ludopédagogie, c'est tout simplement utiliser le jeu et tous ses avantages pour faire passer des messages. Et nous, aux éditions Déclic, on l'utilise pour changer les comportements. Donc, pas seulement, on ne va pas l'utiliser pour apprendre les maths, par exemple, ça se fait très bien, c'est super. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'impacter les comportements des gens sur les thématiques de société.
Et sur les thématiques de société, on va dire, sensibles.
Oui, bien sûr. Bah, ça a plein d'atouts, le jeu. Le jeu, ça permet déjà de passer un bon moment et d'ouvrir les dialogues, les discours, de permettre d'échanger sur des sujets un peu tabous. On parle beaucoup plus facilement quand on joue à un jeu plutôt que dire « Ok, aujourd'hui, je vais parler de sexualité ». Non, on va jouer à un jeu de société, ok? Ça va bien se passer. En plus d'autres avantages, on permet de vulgariser plus facilement les thématiques, on permet de cadrer aussi, parce qu'il y a des petits sujets qui méritent un petit peu de cadre, un petit peu de loi, etc., etc. Donc, ça permet de cadrer automatiquement. Ça permet bien sûr d'informer, de passer les messages, peut-être au bon moment, peut'être d'une meilleure façon.
Tout en s'amusant, toujours.
Et bien sûr, de coller aussi, ça c'est un truc important pour nous, c'est que souvent quand on veut parler de ces sujets de société, eh bien on y va avec nos sujets, nos appréhensions et nos intentions de parents, d'enseignants, de professionnels, etc. Là, l'idée, c'est de partir vraiment des publics, donc des adolescents pour s'éduquer, et de coller vraiment aux préoccupations. Parce que leurs préoccupations, c'est pas forcément quel est le type de préservatif, par exemple, c'est plutôt dans quel sens je tourne ma langue quand j'embrasse, Donc, on va vraiment partir de leurs préoccupations à eux. Ça, c'est
très pratico-pratique.
Pratico-pratique.
Je veux dire que finalement, c'est les mêmes préoccupations que quand j'étais ado, là.
Que les ados d'antan.
Je suis persuadé que les ados d'aujourd'hui, ils ont d'autres préoccupations. J'espère qu'on en parlera. pour expliquer d'où vous partez et pour voir quelle a été votre prise de conscience. Vous aviez une petite vie tranquille et mémère.
Disons ça, en tout cas, autant que peut l'être un éducateur spécialisé.
Voilà, mais vous étiez sur une autoroute, on va dire.
J'ai commencé animatrice en centre de loisirs, j'ai fait un peu de travail social, militantisme, j'ai fait monitrice éducatrice, éducatrice spécialisée, formatrice auprès des travailleurs sociaux, bref, un petit parcours classique dans le travail social.
Et finalement, vous avez été confronté à une nouvelle, peut-être, population, une nouvelle génération. Et vous avez été confronté à un groupe de jeunes qui avaient violé une copine.
Alors, pas nouvelle population. Les viols ont toujours été là. Par contre, ils n'ont pas été aussi visibles, effectivement, ou parlés actuellement. Mais en tout cas, dans toutes mes expériences professionnelles, il y avait toujours des violences sexuelles subies et agies dans les établissements.
Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un sujet neuf.
Eh bien, pas du tout.
Donc,
on en parle.
Ça veut dire que c'est un sujet qui a été enterré pendant longtemps.
Alors,
ce qui est nouveau, c'est la libération de la parole, mais les faits en eux-mêmes ont toujours existé depuis la nuit des temps.
Bien sûr. Ce qui est juste, moi, était nouveau pour moi. Alors, j'étais déjà jeune professionnelle, mais à un moment donné, je suis rentrée dans une pièce avec les jeunes que j'accompagnais en internat et j'ai vu un viol se produire sous mes yeux. Ça met une petite claque professionnelle. Et en plus, quand on accompagne des gens, on a accès à leur parcours. On parle, on voit, ils nous parlent, etc. On échange. Et là, les chiffres d'une femme sur trois et un homme sur cinq sont victimes de violences sexuelles dans leur vie, ils nous, ils, nous viennent en pleine face, quoi. Mmh. Et moi, j'ai eu cette réaction de « Non, mais il faut que je fasse un truc, là. C'est pas possible. »
Mais alors, attendez, quand vous dites « ça se passe sous vos yeux », c'est-à-dire vous rentrez dans une chambre, vous... je suis désolé de vous poser la question, mais...
Oui. Oui, ça se passe sous les yeux.
Ils font pas ça devant vous, donc c'est vous qui rentrez dans une chambre et qui voyez
qui
ça.
Constatez.
Oui, à plusieurs reprises, parce que je travaillais en internat, c'est-à-dire que c'est des jeunes, pour le coup en ITEP, qui sont retirés du milieu scolaire ordinaire, qu'on met dans des établissements spécialisés pour qu'ils soient vraiment accompagnés. Et du coup, ils dorment à l'établissement pendant toute la semaine. Mmh. Et effectivement, on voit ça, les choses se parlent, et à un moment donné, dans ma carrière, j'ai accompagné un groupe de 12 jeunes garçons. Il y en avait 7 qui se violaient entre eux, donc qui étaient et ou victimes et auteurs. Mmh. On reste pas quoi à ce genre
indifférent,
de situation.
Tout à fait.
Ils ont quel âge? Alors, quand vous dites des jeunes, c'est pour avoir une idée de la population?
C'était de 12 à 15 ans.
D'accord. Mmh. Vous avez des mots tout de suite qui vous viennent à ce moment-là ou vous
Tout de suite. Effectivement, en fait, dans le travail social, alors même si on est confronté régulièrement à ces situations, donc on sait ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse un signalement, il faut qu'une démarche judiciaire s'entame. Mmh. On va voir les psychologues des établissements, on va voir aussi les ressources qu'on a à l'extérieur, donc par exemple les sexologues, les CRIAFs, enfin bref, des institutions qui nous accompagnent pour ça. Et je mets tout en œuvre et je continue mon petit parcours d'éducatrice spécialisée, disons. Ok, j'ai tout fait bien. Sauf qu'un jour, un jeune que j'accompagnais est venu me voir en disant « Mais de toute façon, toi, je t'ai parlé, ça n'a rien changé. » Et là, je me suis aperçue que tout ce que j'avais mis en place, tout ce que je pensais être vraiment efficace de mon métier, c'était complètement inefficace et ça n'avait rien changé. Donc ce jeune continuait à violer son camarade, concrètement. Pendant que je travaillais en internat, pendant les nuits, pendant les soirées, il continuait à agir des violences sexuelles. Ça, pour mon cerveau, c'était pas possible.
Après, si juste je peux me permettre, on parle beaucoup de ces violences sexuelles, mais là où la ludopédagogie est importante et là où c'est vraiment important de faire de l'éducation à la sexualité, c'est que la plupart du temps, les jeunes, ils n'ont pas du tout conscience qu'ils sont en train de réaliser des violences sexuelles. Mmh. Ça passe par le jeu, on a vu les grands faire ça, et puis finalement, on reproduit la même chose, comme si c'était une sexualité traditionnelle que tout le monde peut vivre. Mmh. Et c'est pour moi, à ce sens-là, qu'il est important de faire de l'éducation à la sexualité, en fait.
Pour débanaliser, finalement, ces violences qui sont devenues maintenant comme une référence, finalement,
à la fois des pratiques sexuelles. Et à la fois pour que les jeunes puissent prendre conscience que c'est effectivement une violence sexuelle qu'ils sont en train de réaliser.
Tout à fait.
Et j'irais même plus loin, les professionnels aussi. Moi, en tant qu'éducatrice en internat, il y avait plein de choses que je voyais. Je n'analysais pas du tout les choses comme une violence sexuelle. Un exemple flagrant, par exemple, c'est un jeune qui va baisser le pantalon d'un autre. C'est rigolo. Et je me sauve en courant. Non, mais ça, c'est une violence sexuelle, en fait. Et je ne l'interprétais pas du tout de cette façon. Et je pense que en tant qu'adulte, en tant que professionnel, même en tant que parent, on ne voit pas les choses de cette façon. Donc c'est là où la libération de la parole actuelle est extrêmement importante. C'est qu'on analyse différemment et on se dit « Ok, ça, il faut le changer. Ça, c'est pas normal. »
C'est très important ce que vous dites, Alix, parce qu'effectivement, on en est arrivé à rendre léger certains actes et même finalement les rendre banals, simples, amusants, alors que finalement là, c'est, outre le fait effectivement que ce soit une violence extrême, c'est une humiliation, c'est tout ce que ça engendre derrière. Donc ce qui a changé, c'est que maintenant en fait on met un éclairage là-dessus, alors qu'avant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un décalage parfois même générationnel, où des gens qui disent c'est bon, faut pas en faire tout un fromage, moi j'ai déjà vécu ça, j'en suis pas traumatisée pour autant. Oui, mais non. Ce que vous avez vécu n'est pas normal, monsieur, madame, en fait. Donc là, maintenant, il faut remettre les choses au centre et effectivement, pas dire dénoncer, mais en tout cas corriger. Parce que là, c'est vraiment une question de correction. Mmh. Et donc, partant de là, vous avez dit, on va jouer pour impacter, puisque vous êtes rendu compte que finalement que les protocoles n'ont rien impacté.
Oui, c'est ça. Alors, à partir de là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec les jeunes que j'accompagnais, donc avec le petit groupe de 10. Hein. Donc, on a commencé à organiser des sessions de santé sexuelle que je sais que vous faites régulièrement. Je n'ai pas trouvé l'outil qui correspondait à ce que je voulais, parce que c'était il y a 4 ans, mais c'est toujours quand même un peu le cas. Mais les outils en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, n'étaient pas hyper adaptés. C'était un petit peu rose-fille, bleu-garçon. l'inclusion des différentes cultures ou l'inclusion des différentes sexualités, identités, j'en parle même pas. voilà, je trouvais vraiment pas l'outil qui correspondait à la façon dont je voulais travailler. Et du coup, je l'ai créé, mais à aucun moment, je me suis rendu compte dans quoi je m'embarquais. c'est vraiment au fur et à mesure que les choses
quand ce dont vous avez besoin n'existe pas, faut le créer. Vous allez voir, c'est très très facile. vous faites ça à la maison. Vous voulez un jeu, on crée un jeu. Mais finalement, vous, ça vous a amené. Donc, vous êtes passée d'éducatrice à start-upeuse, comme on dit aujourd'hui, ou alors businesswoman ou entrepreneuse, comme on dit aujourd'hui.
Ça me fait un peu mal de le dire parce que j'aime beaucoup le terrain. Mais effectivement, transformation Power Rangers d'éducatrice spécialisée à chef d'entreprise, c'est pas évident. Il y a plein d'étapes à franchir, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est pour ça que je travaille avec des gens géniaux, un réseau de professionnels sur le terrain, des gens qui m'accompagnent, des experts aussi du milieu de l'entrepreneuriat, parce que c'est super d'avoir une belle idée, encore faut-il la mettre en œuvre, la construire, construire une entreprise, gérer une équipe, oh mon Dieu. Il y avait tout un travail à faire.
Donc c'est une entreprise, faut dire collective, hein. On appelle ça un jeu collaboratif, hein, aujourd'hui. Vous avez réuni les 10 ou 12 jeunes qui étaient avec vous dès le départ, et votre sœur.
Oui, c'est ça. Alors, moi, j'étais éducatrice spécialisée et Zoé, ma petite sœur, avait 17 ans et demi, était en train de passer le baccalauréat. Et en fait, c'était exactement la cible de mon jeu. Et donc, on y va ensemble, on crée les cartes ensemble, elle mobilise ses copines, ses copains, etc. etc. Et c'était au début une activité de mercredi après-midi entre sœurs, hein, donc les choses ont bien changé. Donc c'est vraiment tout part toujours du terrain. Et là, quand on s'adresse à des publics adolescents, et ben en fait c'est les adolescents qui ont écrit les contenus. Et aujourd'hui ça se reproduit sur tous nos jeux. Alors adolescents d'abord, ou public in fine, mais aussi professionnels qui sont au contact de ces sujets, qui doivent accompagner sur ces questions-là, aussi donc tout le milieu scientifique qui est important, tous les ancrages qu'on peut avoir à droite à gauche, c'est toujours un travail collectif de créer, pas un jeu, un outil de sensibilisation et de prévention. Et le distinguo est important.
Le grand public peut trouver vos jeux ou ça s'adresse vraiment, comme vous, à des éducateurs spécialisés, à des gens qui font
du terrain,
à des formateurs.
Le grand public utilise nos jeux, il n'y a pas de souci, juste les professionnels vont l'utiliser différemment et ne vont pas transmettre les mêmes messages. Aujourd'hui, donc on a tout un réseau d'ambassadeurs dont Alexia Perret fait partie. On va créer des ateliers de sensibilisation dans les institutions, dans les écoles, auprès, je ne sais pas, du travail social, dans les entreprises même parfois, etc., etc. Et on va former les professionnels de terrain à utiliser ces outils pour justement qu'ils servent vraiment à la prévention et à la sensibilisation, pour qu'ils soient efficaces, impactants et pour répondre à notre premier objectif qui est de changer les comportements.
Voilà, on parle de ludopédagogie ce matin jusqu'à 10h dans À Votre Santé.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors voilà, on parle d'outils pédagogiques nouveaux ce matin avec nos invités, Nadia, puisque Alix Moujard est avec nous, cofondatrice des éditions Déclic, et qui est à la base travailleuse sociale et qui s'est servie de son expérience de terrain pour pouvoir inventer et créer ce jeu. Et Alexia Perret, qui est avec nous, éducatrice à la sexualité, sexothérapeute et thérapeute de couple. Et donc, le jeu dont on parle le plus ce matin, mais on parlera des autres, Nadia, que vous montrez.
C'est du cul. Et en fait, comme nous expliquait Alix, en fait, vous êtes partie du terrain. Donc ça veut dire que les petites bulles de dialogue, les termes utilisés, ce sont vraiment ceux qu'utilisent les ados de notre époque.
Ah bien sûr, quand on crée un jeu, en fait, c'est sur papier au début, donc les jeunes ont écrit leur dialogue. Tel personnage va dire ça à ce moment-là, tel personnage va avoir le choix de dire ça ou ça, et ça en fait toute une aventure. C'est du coup, c'est un outil de c'est de la simulation. C'est un peu le jeu dont vous êtes le héros. Donc au début du jeu.
Non, parce que vous dites que c'est un escape game. En quoi est-ce que c'est un escape game?
Les escape games, c'est des jeux où on va être tous ensemble pour atteindre un même objectif, pour résoudre un mystère.
C'est en ça que c'est un escape game.
Ouais. C'est ça. Et
c'est
là,
un
on
parcours.
Va être tous ensemble, sauf que le mystère, c'est plutôt comment je vais faire pour draguer et pour conclure avec ce personnage fictif. C'est un jeu de cartes, hein. Ne paniquez, personne ne panique.
Oui, mais après, il est conçu de telle façon que ça peut être un escape game, puisque je vois, en fait, vous partez dans un truc plutôt vaste, où il y a un parcours, mais ça peut se faire avec,
Ah, escape game,
c'est quoi le début, c'est quoi la fin en gros? On part de quoi?
Au début, on choisit un personnage qu'on va être. Donc, tous les joueurs.
Genre,
là, on a Quentin, on a Emma,
il y a Samy.
Il y a une petite carte personnage. Mm-hmm. On va choisir un autre personnage qu'on va tenter de déduire. De séduire.
Voilà, c'est ça. Donc, on veut séduire quelqu'un, par exemple.
Ouais. Et après, il y a deux grandes étapes de jeu. La première, c'est on va justement rentrer dans cette relation de séduction et on va vivre plein d'aventures. On peut aller draguer au cinéma, on peut prendre l'excuse du devoir d'anglais, on peut aller en soirée et du coup consommer l'alcool. Et est-ce qu'on peut être consentant si on est complètement déchiré, par exemple, ce genre de questions. Mmh. Donc ça, c'est toute la première aventure de séduction. Et ensuite, on va vraiment parler de sexualité où là, l'objectif, ça va être d'additionner des parties du corps pour faire des actions et on aura gagné le jeu quand on aura une relation sexuelle consentie sans risque d'IST et de grossesse non désirée puisque ça reste un outil, évidemment, sensibilisation.
Donc en fait, là, c'est un véritable jeu de rôle, en fait. Vous les mettez en situation.
On vous apprend à pécho, Nadia.
Tout à fait. Mais ça marche vachement mieux quand on dit ça. Venez, apprendre à pécho.
Je suis d'accord. Ouais. Vous apprendre à pécho. Ils vont dire hey, tu crois qu'on a besoin de toi?
Bah oui. Alors, vous rigolez, mais alors j'ai moult expériences de parties où c'est des vraies questions. Mais nous, en tant qu'adultes, est-ce qu'on sait comment draguer?
Ça dépend si vous appliquez les codes de votre génération aux codes d'aujourd'hui.
Mais ça, chacun a ses codes. Alors, l'idée avec ce jeu, c'est pas du tout de transmettre des codes. Mmh. C'est justement de les interroger. Mmh. On va pas dire, pour draguer, étape A, vous lui dites bonjour, étape B... Non, ça se passe pas comme ça. Mmh. C'est un outil pour discuter entre nous. Donc, il y a rien qui est influencé dans la partie. C'est vraiment, vous avez plusieurs choix d'action et vous allez tester ces choix d'action. Et vous allez en discuter entre joueurs, pas que avec les cartes. Mmh. Moi, par exemple, tu me dis ça, je trouve ça très chouette. Tu me dis ça, je vais te mettre une baffe, etc., etc. Mmh.
Et c'est intéressant parce que du coup, finalement, peu importe la méthodologie et la génération, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est finalement comment moi, je considère l'autre et ce que l'autre me renvoie et comment j'analyse, en fait, finalement, dans mon référentiel, dans ma culture, dans ce que j'ai appris, dans ce que je suis, ce qui est faisable, pas faisable, et puis en termes aussi juridiques, hein, ce qui est légalement faisable ou pas. Donc c'est en ça que le jeu est génial.
Et vous parliez de génération, en fait, moi, je m'amuse à jouer aussi avec des parents et avec leurs ados. Et en fait, c'est rigolo parce que finalement, les questions, vous avez raison tout à l'heure, vous avez dit, c'est un peu les mêmes que quand j'étais ado.
L'histoire de la langue, je l'ai déjà entendue, vous voyez. Donc, elle est transgénérationnelle.
Exactement. Et à la fois, il y a des questions qui vont être transgénérationnelles et à la fois, il y a d'autres questions où, quand on va commencer à parler de non-binarité ou de choses comme ça, là, les jeunes savent exactement de quoi on parle.
Et les parents,
sont beaucoup plus interrogés. Donc, ça peut aussi, quand on va sur le terrain familial, créer des questionnements et créer un petit échange sur mais qu'est-ce que c'est cette nouvelle sexualité, ces nouvelles questions autour du genre que nous, on ne connaissait pas du tout.
Et on parle souvent de génération, mais il y a aussi des questions d'identité, il y a aussi des questions culturelles, il y a aussi des histoires personnelles, etc. Il y a tellement de choses qui influencent. On a tendance à penser que l'éducation sexuelle est un monde en soi, est un sujet à part, mais en fait, pas du tout. Il est hyper transversal et il y a tout influence notre sexualité et il y a plein de normes sociales là-dedans.
C'est pour ça que ce qui est important, et c'est une des questions que je me suis posée justement en consultant votre jeu, c'est est-ce que finalement, quelle que soit ma culture, ma religion, mon éthique, je peux jouer avec ce jeu-là?
Bien sûr. Par contre, on ne va pas parler des mêmes choses peut-être. Voilà. Mais comme différents individus,
tout à fait.
Quelle que soit la raison, on va toujours parler de choses différemment. Mmh. Mais au contraire, par contre, ce qui est important et vraiment l'objectif fondamental de ce jeu, c'est de pouvoir en parler, ce qui est déjà un grand pas pour beaucoup, pouvoir échanger. Ce jeu, il a trois objectifs. Le premier, réduire les violences sexuelles, évidemment, c'est de ça dont je suis partie. Le deuxième, promouvoir l'éducation, enfin la santé sexuelle en soi, parce que l'idée, c'est pas de dire violer, c'est pas bien. Bien sûr que le message est là, sauf que si dire
non,
ça n'est pas utile, ça n'est pas efficace.
Souvent quand on parlait de prévention ou de conférence, on disait oui, mais voilà, violer, c'est pas, pas bien. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, nous, on voulait impacter les comportements. Et vous vous êtes rendu compte que le discours et les outils que vous aviez à l'époque, ça parlait pas aux gamins.
Ouais. Et, dès qu'il est moralisateur.
Et surtout que ça changeait pas les comportements. Donc finalement, qu'est-ce qui fonctionne chez les gamins? Qu'est-ce qui change les comportements durablement? Et ça, c'est une question qu'on a souvent avec Nadia.
Ah, c'est intéressant. Bah, là, le parti de ce jeu, c'est de dire, regardez tout ce qui est super chouette à faire. Et le consentement, c'est pas un cadre lourd. Non, c'est impossible. C'est un truc super chouette et je vais vous apprendre comment vous allez repérer le consentement, comment vous allez, je sais pas, le provoquer peut-être plutôt que ne pas le respecter. Donc c'est vraiment des messages positifs. Et quelque chose qui marche énormément, qu'on utilise nous tous les jours, c'est les échanges entre les gens différents, mais aussi entre les genres. Parce qu'il y a des questions de différence, entre guillemets, entre les hommes et les femmes dans l'éducation sexuelle, dans les relations amoureuses, etc. etc. Et bien, rien que d'en discuter, on va venir travailler de « Non, mais les filles, c'est différent de moi, les garçons, c'est différent de moi. » Mais communiquer, déjà, vous allez voir que, en fait, non. et c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est un des éléments qui impacte vraiment les comportements. Il y en a d'autres, évidemment.
Et ce qui est très important aussi, c'est en fait, dans la partie de Séducu notamment, nous, on peut dire autant de fois, violer, c'est pas bien. Mais là, en fait, ce qui est très important dans ce jeu, c'est que quand on est allé trop loin, la partie s'arrête. Et c'est pas l'accompagnant, c'est pas l'éducateur, c'est pas l'adulte qui dit tu es allé trop loin, c'est le jeu.
Mais dans la vie, quand on est allé trop loin, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour vous, les éducateurs, pour les gens de terrain? Dans la vie, quand vous êtes avec quelqu'un qui est allé trop loin, comment vous reprenez la main?
Il y a un rappel à la loi déjà.
Ce qui est fou, c'est que la réponse à cette question devrait être extrêmement simple. On porte plainte, la personne est condamnée. Dans la réalité, ça ne l'est pas du tout. Il y a énormément de points de frein qui amènent à ce que les violences sexuelles soient assez peu condamnées. Il faut aller porter plainte. C'est pas toujours facile de porter plainte. Il faut que la plainte soit prise. Il faut que la plainte soit traitée. Il faut qu'il y ait des preuves au regard de la justice. Il faut que le juge juge cette affaire dans les bons cadre législatif, donc que ce soit un viol quand c'est un viol, une agression sexuelle quand c'est une agression sexuelle. Il faut qu'in fine que la personne aille en prison et y reste. Bref, aujourd'hui, il y a un gros problème de condamnation.
Et d'accueil de la parole des victimes.
À tous les endroits du parcours des violences sexuelles, il y a des freins, il y a aussi des leviers qu'on va venir saisir. Avec Séducu, l'idée, c'est de se dire condamner les victimes, c'est extrêmement important. Accompagner les victimes, c'est essentiel. Mais pour que les violences s'arrêtent vraiment, il faut intervenir avant. Et pour ça, il faut faire de l'éducation, de la prévention.
Ça marche, la prévention?
Bah, alors là, c'est pas moi qui le dis. Il y a des dizaines d'années de science.
Oui, mais il y a aussi cette idée que la prévention, c'est chiant comme le monde. Je suis désolé de vous dire comme ça. Mais
on peut changer de mot, hein. C'est pas prévention, ça fait un peu, oui, ça fait très politicien. C'est de l'éducation.
Ça nous rappelle nos cours d'IST.
Voilà. Alors, vous imaginez le jeu Séducu dans une classe? Vous allez voir que c'est vachement moins chiant quand même. Hein. Jouer à un jeu de société où on vous apprend à pécho, c'est aussi de la prévention. Et on se marre bien, je vous le dis.
Et en fait, je pense que ce qui va rendre moins chiante cette fameuse prévention, c'est aussi la posture que nous, on va adopter. En fait, on n'est pas les savants qui arrivons pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On vient juste jouer avec des jeunes et les écouter. Et à partir de là, je pense qu'ils ont aussi une autre vision de comment se joue la prévention. Et souvent, on est aussi là pour recueillir. À la fin d'une partie de jeu, on range pas nos petites affaires et on s'en va. On passe du temps avec les jeunes et c'est là où ça
L'espace
sort.
L'espace de parole.
Et c'est là où on ressent l'impact des parties qu'on a pu faire avec eux. Que ce soit de la part des victimes ou même des auteurs. Parce que je pense que les auteurs, c'est aussi hyper intéressant de les écouter et de prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait. Il y a la sanction, effectivement, mais il y a aussi tout l'accompagnement qu'on peut avoir avec eux.
Tout à fait.
La suite, vous avez eu à gérer des jeunes qui avaient commis des actes délictueux. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit après?
Je me suis dit qu'il me fallait un outil, parce qu'aujourd'hui,
on a tous... À part l'outil, quand vous avez été confronté à eux, comment vous rentrez en contact avec eux sur l'instant?
C'est ça qui... mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est des jeunes qu'on accompagne, comme 100% des jeunes qu'on accompagne. Il n'y a pas de cas particulier qui est fait. En plus, en tant qu'éducatrice spécialisée, c'était des jeunes violents que j'accompagnais, donc les violences, ça faisait
déjà
partie...
Déjà, c'était une population où est déjà violente.
Oui, alors par contre, il n'y a pas de corrélation, ça c'est très clair, mais en fait, ça faisait partie de mon quotidien professionnel et il n'y a pas de cas particulier fait pour les violences sexuelles. Non, j'accompagne une personne qui a agi une violence de la même façon, quelle que soit la violence. Et l'objectif de ces personnes-là, c'est effectivement qu'il y ait un cadre de poser, qui soit légal ou pas en fonction de la violence, parce que voilà, il y a plein de types de violences différentes. Et après, c'est les insérer dans la société. C'est ça notre travail en tant qu'éducateur spécialisé quand même.
C'est pour ça que je préfère le terme, excuse-moi Alexia, éducation plutôt que prévention, parce que prévenir, ça voudrait dire que de facto, il y a quelque chose qui va venir. Donc finalement, on ne se rend pas compte, mais c'est, le mot est impactant. Donc on part du postulat que finalement, un garçon est un potentiel violeur, par exemple. Alors que quand on parle d'éducation, c'est une reconfiguration complète, en fait.
Et il y a deux niveaux, en fait. Là, on vous parle en tant qu'intervenants qui vont venir animer une partie de Séducu ou qui vont former des professionnels. Mais à la base, on est des professionnels de terrain. Et du coup, ces personnes, comme a dit Alix, on les accompagne dans le cadre de l'internat, dans le cadre de leur quotidien. Donc, bien souvent, même si on n'est pas tombé sur une situation, il y a des gens qui sont venus nous parler. Et moi, particulièrement, c'est des auteurs qui sont venus me confier ce qu'ils avaient fait. Et là, on accompagne une personne avec cette problématique. Mais on accompagne la personne dans sa globalité, dans son quotidien, et dans un suivi qui va durer parfois plusieurs années.
Bien. On va jouer tout à l'heure, Nadia, tout à l'heure. Puisque finalement, ça change aussi. Et c'est des outils pour vous. Il y a des parents qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces choses-là également aussi.
Parce qu'il y a plein d'autres jeux. Il n'y a pas uniquement le Séducu qui est centré sur l'éducation à la sexualité.
Ça commence à 3 ans.
Je vous laisse présenter par exemple celui-ci.
Ah, le grand quiz des religions, c'est un de mes préférés. Alors, il s'appelle. Il y a religion dans le nom, mais il permet de parler de laïcité. Parce que la laïcité, c'est bien que chacun puisse vivre sa religion de manière différente, dans son droit, dans la société, dans tout ce qu'il aime et ce qu'il souhaite. Et ça permet de parler de toutes les religions de manière... alors, égalitaire, c'est peut-être pas le bon mot, mais...
Mais le bon mot, après la pub.
Voilà. D'accord. Teasing.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, ça bouge dans le domaine de la... prévention, Nadia. Nous avons sur ce plateau aujourd'hui Alix Moujard, qui est cofondatrice des éditions Déclic. Voilà, une start-up, une jeune start-up qui distribue notamment des jeux impactants sur des sujets de société. Et Alexia Perret, qui est éducatrice à la sexualité, sexothérapeute et thérapeute de couple. Tout part d'un slogan.
Jouer pour impacter.
Bon, j'en avais un autre. La sexualité, c'est cool.
Ah, ça, c'est du cul, oui.
Ça, c'est pour cela.
Voilà, bah, après, maintenant.
La sexualité, c'est cool. Si c'est pas cool, c'est pas du sexe. C'est un message qu'il faudrait que tout le monde entende, je pense.
Alors, ça, c'est.
Et cool, ça veut pas dire prendre à la légère. Parce que les gens, en fait, ils font le raccourci très facilement. Et c'est très souvent ce qui est reproché d'ailleurs, c'est comme nos émissions, c'est pas parce qu'on parle avec parfois plaisanterie et bonne humeur de sexualité qu'on prend la sexualité ou les sexualités à la légère, du tout.
Oui, mais Nadia, vous savez bien, et on en parle souvent avec les parents ou avec des commentaires qu'on a, la question de la sexualité, déjà, c'est gênant pour les gens où ça les met en... Voilà, ça, on voit que ça gêne. Et la sexualité des ados, bah, c'est encore plus gênant pour les parents.
Oui, effectivement, c'est des sujets qui ne sont pas faciles à aborder. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on va voir des animateurs, des éducateurs, des intervenants extérieurs ou la tante ou le tonton de la famille aussi. On n'est pas obligé en tant que parent de parler de sexualité avec ses enfants. Par contre, peut-être qu'on peut s'assurer qu'ils puissent en parler avec quelqu'un.
Tout à fait.
Comment est-ce qu'on peut atteindre le plaisir avec un jeu ?
Ah, alors c'est pas avec ces jeux-là dans ce cas.
Ah bon, d'accord.
Mais par contre, l'éducation permet le fait de connaître son corps, le fait de savoir comment
c'est
on va rentrer en relation.
C'est pas ces jeux-là, vous m'expliquerez les jeux auxquels vous pensez, mais
à un autre moment peut-être.
Une autre émission.
C'est Tarek qui me demandait des jeux.
Les jeux de Tarek, on
mais
en reparlera.
Il y a d'autres entrepreneuses qui sont géniales. Il y a Puissant, je ne sais pas si vous connaissez, qui est absolument génial. Donc vous pourrez certainement en discuter avec elle. Qui a d'autres types de jeux et d'outils qui sont très utiles dans ce cadre-là.
Ludo-pédagogique.
Pas tout à fait.
Ou plutôt pratique.
Plutôt pratique, disons.
C'est ça, ouais.
Je pense qu'elle en parlera bien mieux que nous.
Mais corpo pédagogique.
Disons ça.
Une prévention donc efficace, vous le dites, ça passe par les outils, par le jeu, mais vous avez aussi un réseau. Hein, Déclic, c'est un réseau. Il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne.
Déclic, c'est trois choses. C'est d'abord un comité scientifique et un ancrage scientifique. La deuxième chose, c'est un réseau de professionnels qui sont des professionnels de terrain, des enseignants, des éducateurs spécialisés, des psychologues, etc., qui ont une expertise.
Des décliqueurs.
Des
décliqueurs,
c'est vraiment le mot qui commence à émerger dans notre réseau. Ils ont tous des expertises particulières. Donc, on a Alexia Perret qui est experte des questions de santé sexuelle, mais on a aussi des experts en écologie, on a aussi des experts en laïcité, des experts en compétences psychosociales, par exemple. Et ils sont un petit peu partout en France et en Belgique. Et leur travail, ça va être d'animer ces ateliers de sensibilisation avec ces jeux et de former les professionnels de terrain qui ont les mains dans le cambouis, qui sont plus proches des publics, à utiliser ces outils dans leur pratique.
Les écoles font appel à vous ou pas encore ?
Bien sûr.
Alors, vous arrivez à entrer dans les écoles ?
C'est pas les secteurs les plus faciles, hein, ça c'est exact. Mais oui, bien sûr, on travaille avec les écoles, on travaille avec tout le monde du travail social, donc avec les personnes en situation de handicap, par exemple, les jeunes qui sont accompagnés par l'aide sociale enfance. On travaille aussi avec toute l'éducation populaire, les centres sociaux, les centres de loisirs, etc. Et c'est vrai que nos jeux marchent d'autant mieux quand il y a un contexte où les professionnels sont en proximité avec les publics. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs les personnes qui changent vraiment le monde, c'est ceux qui sont au contact des gens qui travaillent au plus proche et dans les relations de confiance, etc.
Oui, vous avez des partenaires comme l'ARS. Hein,
oui, bien sûr, l'Agence régionale de santé, les hôpitaux de Paris,
le ministère de l'éducation,
les préfectures sur les questions d'égalité hommes-femmes. Bien sûr, on s'accompagne, on travaille vraiment main dans la main avec tout un tas d'acteurs et on croit énormément en l'intelligence collective pour créer les jeux, mais aussi pour les mettre en place.
L'intelligence collective, c'est la base partout. Dans tous les secteurs de la vie.
Complètement. Ça, plusieurs cerveaux valent mieux
qu'un. Ah ouais, non, mais ça, mais le jour où les gens auront compris que l'intelligence collective, c'est ce qui fait fonctionner le monde et les bonnes idées viennent de plusieurs cerveaux, on aura compris beaucoup de choses.
C'est la base théorique, mais après, pour l'appliquer, non, c'est plus compliqué.
Voilà. Chacun ses chapelles, hein, après.
Ouais. Mais Alix a un côté formidable, justement, pour cette intelligence collective, parce qu'elle est toujours en train de dire qu'elle s'est bien entourée. Elle a surtout fait en sorte que tous, on reste. Que tous, on ait envie de participer et de contribuer pleinement à l'aventure, en fait.
Mais parce qu'Alix vient du terrain, ne l'oublions pas. On le disait en off tout à l'heure, donc il y a les théoriciens, théoriciennes, et il y a les gens de terrain, et en fait, l'objectif, et c'est génial ce que vous avez fait, c'est de ne pas diviser tout ce monde-là, c'est justement de pouvoir potentialiser leurs apports communs.
Complètement. C'est de faire rencontrer des gens différents, qui ont des points de vue différents. Quelque chose de très intéressant, j'ai envie de parler de ta collègue, Nadia, qui est à l'autre bout de la France.
Nadia Morand,
qui est une personne géniale, qui fait partie de notre réseau Déclic, et qui a aussi une expertise sur les questions de santé sexuelle. Oui. Et ce qui est très chouette, c'est qu'elles sont extrêmement complémentaires et différentes sur ce sujet, puisqu'elle a une toute autre expertise, Nadia Morand. Mais c'est vrai que c'est un très beau travail.
Qu'est-ce qui est différent de votre expertise, Alexia ?
Alors, en fait, Nadia, elle va pouvoir beaucoup plus parler de tout ce qui est autour du handicap moteur et de la sensualité. Là où moi, mon champ d'action, il va quand même être beaucoup plus autour du handicap mental et psychique et de l'éducation à la sexualité. On n'a pas la même, alors j'allais dire la même approche, mais c'est pas ça. On n'a pas le même prisme de départ. Et finalement, avec ça, on se rend compte qu'on a quand même la même approche et que nos idées sur plein de points se rejoignent complètement, en fait.
Et je trouve que c'est un très, très bel exemple de gens qui travaillent sur les mêmes sujets, qui peuvent se rassembler. Et ensemble, avec ces regards différents sur un même objet, on peut faire des choses juste incroyables, quoi.
Donc, avec du recul, comment est-ce qu'on change durablement les comportements ?
Ça, c'est une très, très belle question et auquel je ne vais pas apporter de réponse ferme parce que je pense que les sciences sociales essayent d'y répondre depuis des...
Avec Nadia, on se prend souvent la tête. La dame dit, tu sais, il faut déconstruire les idées.
Par contre, en fait, c'est exactement le travail qu'on veut mener aux éditions Déclic, c'est qu'on a une scientifique en interne qui s'appelle Marie Tremblay, qui est en train de préparer sa thèse sur le sujet pour justement évaluer l'impact et de se dire quels sont les leviers qu'on peut avoir qui sont efficaces ou qui ne sont pas du tout efficaces place dans la ludopédagogie et ailleurs pour changer durablement les comportements. Et aujourd'hui, on s'appuie quand même sur les sciences sociales et notamment sur la pédagogie expérientielle. Et cette pédagogie-là, elle nous dit qu'il y a 4 leviers très importants à prendre en compte quand on veut vraiment changer les comportements. La première, c'est prendre en compte qui sont les personnes et le parcours des personnes. Ça sert à rien de demander à quelqu'un de changer radicalement ce style de vie. Il faut prendre en compte son vécu passé. Le deuxième élément, c'est il faut pouvoir le penser, l'analyser et prendre du recul sur ça. Et ça, c'est parfois facile, parfois complètement difficile, etc. Ça peut être le travail des psychologues, par exemple, de prendre du recul sur des choses vécues.
Quand ils ont eux-mêmes fait un travail sur eux.
Petite parenthèse. Le troisième point, c'est l'expérience. C'est qu'on va vraiment utiliser, des objets. Par exemple, c'est très chouette de se dire, ok, je voudrais changer ça. Mais comment? Comment? Si on ne sait pas le comment, quelles sont les étapes, etc., eh bien, ça ne va pas marcher. Et le quatrième point, c'est bien sûr les savoirs. Il faut savoir. Que le préservatif existe pour le mettre, sinon on ne le mettra jamais, ce genre de choses. Donc voilà, quatre piliers pour de la pédagogie expérientielle.
Mmh. On l'a beaucoup dit à notre génération, je ne sais pas si les gens en ont mis plus. Hein. C'est pour ça qu'on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui impacte et qu'est-ce qui fait changer durablement les comportements.
Rassurez-vous, si, en fait, les gens ont beaucoup plus mis le préservatif. Et d'ailleurs, il y a une étude très intéressante dont ma mémoire va faire défaut, donc je ne vais pas pouvoir la citer, mais justement qui a analysé l'impact des différentes actions qui ont été mises en place pour la mise en place du préservatif chez les gens. Et il y a un des leviers qui m'avait vraiment paru très, très important, c'est qu'il y a eu tout un travail de fait dans la sensibilisation au grand public pour rendre le préservatif cool, chouette, positif. Et pas quelque chose de freinant. Et ça a été un levier très efficace pour que les gens mettent vraiment le préservatif.
Bon, Nadia, vous avez plein de jeux devant vous. Alors, on a parlé de l'aspect prévention, alors donc on a le CDQ. Oui. Mais alors, vous vous intéressez vraiment à tous les sujets de société, à tous les sujets, on va dire, sensibles.
Alors, par exemple, celui-ci. Moi, c'est madame.
Alors ça, c'est un jeu qu'on distribue, qui est édité par l'ECLAP, qui est dans le sud de la France. Et c'est un jeu absolument génial pour travailler l'égalité entre les hommes et les femmes. Particulièrement
votre dada.
Oui, c'est vrai que c'est aussi un petit... Mais j'ai plusieurs sujets de prédilection, disons. Et celui-ci, il est très intéressant parce qu'il permet... alors, je vais caricaturer un petit peu, mais ce n'est pas aussi noir ou blanc que ça. Mais il permet aux femmes de s'entraîner à riposter face aux réflexions sexistes ou aux agressions sexistes, disons-le.
Par exemple ça. Je te vois bien avec un bébé.
le but du jeu, ça va être... Il va y avoir des cartes attaques avec des petites punchlines.
Je te vois bien avec un bébé, c'est comme ça va...
C'est très essentialisant
pour une femme, précisément.
C'est ça qui est très...
Ça veut dire qu'une femme est forcément vouée à la maternité. Donc, c'est une déconstruction,
par
exemple.
Mais à quoi on répond ? Les femmes... écoutent, entendent ce type de réflexion tout le temps. Comment on répond ? Mais en fait, souvent, on reste comme ça.
Pantoise.
À ne pas trop savoir quoi dire. Ou alors à attaquer, évidemment, bien sûr. Mais l'idée, c'est de s'entraîner à ça. Ça, c'est plutôt du côté de celles qui peuvent recevoir des réflexions. Et du côté de ceux qui peuvent émettre ce type de réflexion, c'est de réaliser justement « Ah, j'avais pas pensé qu'en fait, ça pouvait être mal perçu ».
Après, il y a Feeling.
Feeling, un jeu de acting game ils sont en Belgique, ils sont absolument géniaux. Ça, c'est un jeu pour travailler les émotions et particulièrement l'empathie. Il va y avoir plutôt à destination des enfants.
Ça, c'est pour Karima Shadibaou.
Notre sorcière d'amour, Karima.
Ça, il faut garder pour Karima Shadibaou.
Celui-ci, il est absolument génial. Il y a des situations de vie, donc des petites cartes avec, tu entends ça à l'école, ou ta mère te dit ça, etc., etc. Et en fait, les enfants ou les adolescents vont se dire, ok, quelle émotion je vivrais dans cette situation-là. Et le plus difficile, le but du jeu, ça va être de deviner ce que l'autre joueur, par exemple, ce que Nadia, vous auriez ressenti, vécu à ce moment-là. Et on travaille vraiment l'empathie avec ce jeu, c'est absolument trop chouette.
Alors d'autres
et
jeux...
Et celui-ci, la planète des émotions.
La planète des émotions.
Un peu dans la même famille.
Oui, mais pour les plus jeunes. La planète des émotions, c'est vraiment pour les tout petits, les 3-6 ans, disons, où là, il va y avoir des cartes situations aussi, mais c'est des petites illustrations où on va demander aux enfants, mais comment tu sais quelle émotion vit cet enfant-là? Il y a des indices sur le visage, par exemple. Il y a des indices dans la situation, donc là, effectivement, on voit une carte avec une petite fille qui a des larmes sur les yeux, qui s'essuie la joue et avec son vélo qui est tombé par terre. Donc, on va demander aux enfants de se dire, OK, quelle émotion elle vit dans ce cas-là. Et il y a toute une aventure avec des extraterrestres qui ne connaissent pas les émotions. Il va falloir aider les petits extraterrestres.
Bref, à leur expliquer.
Un petit, bien sûr. Oui, il y a toute la petite histoire qui va avec.
Adorer, hein. C'est vraiment son dada, tout ce qui est le travail sur les émotions.
C'est extrêmement transversal.
Ouais.
Et en fait, moi, c'est des jeux qui m'intéressent en tant qu'éducatrice à la sexualité parce que on ne peut pas parler éducation à la sexualité si on ne parle pas des compétences psychosociales. Ces jeux-là, en fait, ils servent dès 3 ans à commencer à échanger sur l'empathie, sur l'émotion, sur c'est quoi mon corps, sur comment je veux le défendre. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment ça. On n'attend pas d'aller toucher les ados. On commence dès l'école maternelle.
C'est trop tard. Ouais.
C'est ça.
Ouais,
presque.
Ouais. Et s'autoriser à exprimer ce que je ressens. Enfin, voilà.
Exactement.
Pourquoi je le ressens,
et
comment je le ressens.
Comprendre ce que l'autre en face de nous peut ressentir aussi.
Tout à fait.
Bien, vous avez un site, on vous retrouve comment ?
Bien sûr, sur editiondeclic.fr, édition au pluriel, déclic, D-E-S-C-L-I-C, parce qu'on aime beaucoup les jeux de mots, vous aurez compris, donc c'est le petit D, déclic.
Pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous écoutent, combien de gens ont été formés depuis que le jeu existe ?
Formés, on en est presque à 500 professionnels et on a impacté près de 20 000 jeunes aujourd'hui.
Voilà, donc ça fait du monde. Hein.
Oui. Alors qu'ils commencent. Hein.
Oui, parce que l'objectif c'est de doubler, tripler, quadrupler. On est un petit peu ambitieux dans le réseau Déclic, non ?
On va devenir vraiment internationaux.
Bien sûr.
Pour une fois que ce n'est pas les US la référence. Hein. Cocorico. Hein.
Vous êtes en Normandie, non ?
Oui, notre siège est en Normandie, mais on a des ambassadeurs. Donc,
mais c'est une boîte française, hein. C'est fait en France.
Ah, bien sûr. Et on promeut des valeurs. La moindre des choses, c'est de les respecter. Donc, bien sûr qu'on imprime en France. Bien sûr qu'on travaille avec, par exemple, des travailleurs en situation de handicap. Bien sûr qu'on est écolo, etc.
Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Et puis, vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Nadia, à mardi.
À mardi.
Et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.